larme d'Aphrodite, rosée tombée du ciel, symbole de pureté ou de majesté, les perles n'ont jamais cessé de fasciner l'humanité. Dans cette nouvelle saison, la Voix des Bijoux nous entraîne aux côtés des pêcheurs de nacre du néolithique, des grandes reines de la Renaissance et des stars d'Hollywood à la découverte des chefs-d'œuvre de la joaillerie inspirés par les perles. Un podcast de l'École des Arts Joailliers avec le soutien de Van Cleef & Arpels.
Je vous interromps pour faire une citation. Je l'ai recueillie ce matin, je voudrais absolument m'en servir. Elle est de Voltaire, la voici. La superstition est à la religion ce que l'astrologie est à l'astronomie. Deux points. La fille très folle d'une mère très sage.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. La superstition. Voilà une réalité omniprésente qui a toujours été considérée par les esprits forts avec toute la condescendance possible. Ils ont accoutumé de la fustiger comme attentatoire à tous les prestiges de la raison triomphante. Mais il n'y a évidemment pas là le moindre motif pour qu'un historien s'abstienne de s'intéresser à elle, bien au contraire. Il se convaincra vite, en effet, qu'elle a sûrement beaucoup à nous dire sur les comportements individuels et collectifs d'une civilisation à l'autre. Et l'on se réjouit que Philippe Martin, professeur à l'université Lyon 2, mon invité ce matin, se soit trouvé assez stimulé par ce thème pour s'en emparer et pour en faire un beau livre. Il y décrit la diversité des avatars de la superstition et de ses effets sur les collectivités et sur les destins individuels. Il démontre qu'en dépit de l'apparence d'une permanence monotone, la superstition revêt en réalité, dans sa plasticité, un nombre très riche et très varié d'apparences et de significations, tout en donnant toujours l'impression qu'on peut y débusquer un effort inconscient pour retrouver une maîtrise sur un monde dont on n'arrive pas à comprendre les ressorts et les complexités, pour échapper aux impératifs de sa majesté le hasard, comme aimait à dire Voltaire. Nous allons considérer en particulier comment les grands défis affrontés par les humains, la guerre, la peste, la famine, ont pu donner toute sa force à la superstition, en l'instituant comme une protection contre l'angoisse. Nous allons voir aussi comment les religions ont constamment hésité entre le désir de l'éradiquer et l'espoir d'en détourner l'énergie à leur avantage. Il est ainsi loisible de discerner, dans la superstition, à la fois et contradictoirement, la défense des libertés individuelles et un instrument de domination spirituelle et matérielle.
Trèfle à quatre feuilles dans le coin de son portefeuille, c'était là le secret de son bonheur. Il le portait toujours sur son cœur, ce petit brin de verdure, témoin d'une belle aventure, lui rappelait les attraits de sa Lily qu'il avait cueillie pour lui. Le dimanche, sous les branches, que faire au printemps, quand la mousse est si douce et que la fille a 20 ans. Un petit trèfle à quatre feuilles dans un coin de son portefeuille, s'il n'avait pas eu ce talisman, l'aurait-il aimé aussi longtemps? Je ne sais pas, mais je devine que la fille était très fine.
Elle avait
sûrement lu dans ses yeux qu'il était superstitieux. Mais la belle était pure et se refusa. Tu m'auras, oui, je le jure, quand ce trèfle fleurira. Mais avant qu'il ait eu le temps de jaunir, le couple était allé se faire bénir. Paraît qu'on ne trouve pas sur terre un ménage plus exemplaire. Ils ont eu des quadruples et depuis, chaque feuille a porté ses fruits.
Philippe Martin, bonjour.
Bonjour.
Je vous ai proposé une chanson qui s'intitule « Le trèfle à quatre feuilles », interprétée par Lynn Renaud sur une musique de Loulou Gasté et des paroles de Jean Boyer, une chanson de 1957. Le trèfle à quatre feuilles, d'où vient cette superstition?
Avec cette chanson, vous résumez tout, parce que il y a trois choses. La première chose, c'est la rareté. Les trèfles ont généralement trois feuilles, donc quatre, ça les fait exceptionnels. Du coup, l'exceptionnel, et c'est le deuxième élément, on lui attribue une puissance de transfert. Puisqu'il est exceptionnel, il peut m'apporter une force exceptionnelle.
Et ça remonte aux druides, semble-t-il.
Et voilà. Alors, est-ce que ça remonte aux druides? J'en sais rien, mais je pense que c'est plutôt que, face à cette croyance qui est infondée, on va avoir un discours qui légitime la chose. Et qu'est-ce qui peut légitimer? La tradition. Alors la tradition, c'est, oui, mais finalement, les druides le faisaient parce que le trèfle annonce le mauvais temps en se repliant un peu. Les chrétiens ont repris le légendaire en disant, oui, mais finalement, quand l'enfant Jésus était là, tout seul, en train de vouloir dormir, un trèfle s'est mis et sa tête a pu se reposer. Mais en réalité, on a l'exception, l'idée d'un transfert de force, et le discours qui est légitime. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est comment l'esprit humain construit cette chaîne.
Votre livre est entièrement construit sur l'idée d'une omniprésence de la superstition, et ceux qui pensent y échapper n'y échappent pas toujours. Il y a un mot fameux d'Alphonse Allais qui disait « Je ne suis pas superstitieux parce que ça porte malheur ».
Voilà, exactement. On a eu des analyses comme ça de constitution de la superstition. Alors, on a interrogé, on a enquêté des gens qui n'avaient pas dépassé le niveau de l'école primaire. Et on obtient à peu près 65% de gens qui sont superstitieux. Alors, on a fait la même enquête auprès des gens du Mensa, les gens au QI le plus important. Et on a eu une énorme différence. 65% pour les uns, 64% pour les autres. C'est pas l'intelligence, c'est pas le milieu social qui fait on est tous superstitieux.
Universalité, donc, c'est ce que vous démontrez dans vos travaux, Philippe Martin. Vous avez choisi comme épigraphe pour votre ouvrage un mot qui est attribué à Talleyrand. Les mots ont leur histoire, comme les hommes, et leur histoire les fait mieux comprendre que leur définition. Alors, entamons ce chemin et parlez-nous de l'histoire de la superstition.
Mais la superstition, en réalité, j'en parle pas dans ce livre, mais j'en parle beaucoup. C'est-à-dire que la superstition, c'est deux choses. C'est d'abord un mot. Autrement dit, c'est un terme qui qualifie. Quelque chose qui est appelé superstitieux aujourd'hui pourra très bien être appelé par d'autres médecines alternatives, sorcellerie au XVIe siècle. Le même type de recette peut vous envoyer au bûcher au XVIe siècle, dans les livres de folkloristes au XIXe siècle ou dans les médecines dites alternatives aujourd'hui. C'est un mot qui qualifie ou qui disqualifie. Et puis, la superstition, c'est quand même aussi vu de l'intérieur. Parce qu'avec le mot, on est de l'extérieur. Vu de l'intérieur, c'est un fonctionnement de la pensée. L'être humain ne peut pas vivre avec des tensions trop fortes. Il faut absolument qu'il ait une espèce d'espace où il peut croire avoir le contrôle. Et les superstitions vont lui donner cette impression qu'il peut contrôler sa vie.
En face d'un monde qui, très souvent, est incompréhensible dans ses mouvements, dans ses ressorts, c'est une manière de réagir, en effet, à son propre désarroi, c'est ce que vous nous expliquez.
Exactement. Et donc, on est tous superstitieux.
Et on était déjà chez les Romains, puisque la notion de superstition, parlons de l'histoire du mot, la notion de superstition vient de l'Occident avant de s'étendre au reste du monde. Déjà, Cicéron.
Exactement. Alors ça, c'est quelque chose qui est tout à fait propre à notre philosophie grecque, c'est-à-dire il faut distinguer les choses. Il y a des choses licites et des choses illicites. Hein, on va retrouver ça chez Aristote et chez d'autres.
Le mot même, quelle est son étymologie, Philippe Martin ?
Ah, alors l'étymologie du mot superstition, elle n'est pas claire du tout. Mais on peut considérer que ça veut dire trop. C'est trop, super. Autrement dit, on est trop croyant, trop naïf, on va trop au temple, on consulte trop les horispices, etc., etc. Il y a des comportements, et c'est finalement l'abus de ces comportements qui fait qu'on est superstitieux.
Alors remontons à l'Antiquité romaine. Cicéron est l'auteur d'un ouvrage, ce n'est pas le plus connu, mais tout à fait intéressant pour notre propos de ce matin, qui s'appelle « De la divination ». Et en voici un extrait.
Nihil ferre, quondam maioris rei, nisi auspicato, ne privatim quidem gerebatur, quod etiam nunc nuptiarum auspices declarant, quire omissa nomen tantum tenent. Autrefois, même dans la vie privée, on n'accomplissait généralement rien de quelque importance sans avoir pris les auspices, comme le montrent encore aujourd'hui les auspices de mariage, dont la pratique a disparu mais dont le nom subsiste. Par exemple, comme on recourt aujourd'hui aux viscères, et cela même un peu moins que jadis, on interrogeait alors les oiseaux pour les actions importantes. C'est pourquoi, si nous ne poursuivons pas jusqu'à satisfaction la recherche de signes favorables, nous nous exposons au risque d'auspices funestes et viciés. Ainsi, Publius Claudius, le fils d'Appius Cacus, et son collègue Lucius Junius perdirent des flottes immenses parce qu'ils avaient pris la mer malgré des auspices contraires. Ce fut aussi le cas d'Agamemnon, qui, voyant les Achéens murmurer et mépriser ouvertement l'art d'examiner les viscères, fait lever l'ancre avec leur approbation et l'hostilité des oiseaux. En réalité, les auspices de catastrophe, comme les autres auspices, les présages par la parole, les signes, ne fournissent pas la cause d'un événement. Ils annoncent des événements à venir si l'on ne prend pas les précautions requises. La divinité n'a pas voulu que j'aie la science de ces choses, mais seulement que j'en fasse usage. J'en ferai donc usage, et je ne me laisserai pas persuader que, dans le cas des viscères, toute l'étrurie divague, que cette nation se trompe sur les foudres ou interprète faussement les prodiges, puisque souvent des grondements, souvent des mugissements, souvent des tremblements de terre ont annoncé bien des événements graves et véritables, tant à notre République qu'aux autres États.
Ce texte de Cicéron, qui remonte donc à 44 avant Jésus-Christ, est lu ici par Pauline Jambet dans « La vie comme elle va » de Francesca Piolo sur France Culture le 9 décembre 2004. Nos auditrices et nos auditeurs savent que je n'abuse pas du latin dans cette émission, même s'il est lu de façon charmante avec un joli accent français. Mais l'essentiel, c'est évidemment le propos de Cicéron avec Philippe Martin, avec cette distance prise intellectuelle du temps, et en même temps le fait qu'il y croit tout de même, en parlant de... Il ne faut pas croire que ce sont les causes, mais néanmoins c'est important.
Ah, le texte est superbe parce qu'il dit ce qui est l'essentiel là aussi de la superstition. D'abord, c'est que la superstition, c'est quelque chose de vivant. Hein. Il commence bien par nous dire il y avait des liens au mariage, ça a disparu maintenant. Donc la superstition est quelque chose de culturel. La deuxième chose, c'est qu'il considère que la divinité autorise et n'autorise pas certaines choses et que la superstition est dans l'entre-deux. Voilà, on ne doit pas connaître l'avenir, mais avec les viscères, on peut être mis un tout petit peu à l'abri. Et puis, le dernier élément, c'est que j'y crois sans y croire. Voilà, c'est pas vrai, mais d'un autre côté, j'aurais intérêt quand même à les écouter. C'est profondément humain. Ça dit vraiment la manière dont l'homme, dont l'humain se positionne par rapport au temps, par rapport à Dieu et par rapport à sa propre vie. C'est un texte superbe.
Cette ambivalence profonde se retrouve dans la diversité des définitions que vous vous êtes donné le plaisir d'aligner, Philippe Martin, à travers les siècles. Spinoza disait que c'était l'interdiction de prendre des plaisirs. C'était pour Burke, au XVIIIe siècle, la religion des âmes faibles pour l'homme politique. Baudelaire disait que c'était le réservoir de toutes les vérités. et Jean Cocteau que c'était l'art de se mettre en règle avec les coïncidences. Comment vous débrouillez-vous dans ces définitions si diverses, Philippe Martin ?
Je m'en débrouille en refusant de donner une définition. C'est pas lâcheté, mais c'est surtout que la manière dont une époque définit la superstition nous dit beaucoup sur ce que cette époque veut croire licite ou illicite. Superstition d'un jour, croyance à un autre moment et religion encore dans un autre siècle.
Alors nous arrivons déjà à le christianisme.
Le christianisme a récupéré la notion, hein, la notion qui est donc gréco-romaine. Et il y a un penseur qui est essentiel, c'est Augustin. Et Augustin va expliquer que la superstition est quelque chose qui existe. Du coup, comment va-t-il la définir ? En disant, est superstitieux. Un, celui qui rend hommage aux idoles. Autrement dit, qui reste encore lié à des éléments qui sont des éléments païens. Deuxièmement, est superstitieux celui qui subit ce qu'on appelle la vaine observance. C'est-à-dire qui croit pouvoir faire violence à Dieu. Je fais telle et telle chose et obligatoirement, j'aurai tel résultat. La troisième caractéristique de la superstition selon Augustin, c'est lire l'avenir. Voilà. Dieu ne veut pas qu'on connaisse l'avenir. Dieu veut qu'on fasse son salut au présent. Toute personne qui essaye de se projeter dépasse le plan de Dieu, donc est superstitieux. Et là, Augustin pose trois éléments fondamentaux qu'on va retrouver pendant, jusqu'à nos jours. Pendant des siècles, la pensée occidentale va constituer sur ces trois éléments.
Et déjà chez Thomas d'Aquin.
Eh bien, Thomas d'Aquin va reprendre la chose en parlant, lui, de culte illégitime. Autrement dit, il dit, le Notre Père, réciter le Notre Père, c'est très bien. Trois fois, c'est très bien. Mais croire qu'en récitant trois fois le Notre Père, je pourrais trouver un trésor, ça, c'est illégitime. Thomas d'Aquin dit bien que finalement, la superstition, c'est un dépassement de ce qui est socialement et culturellement admis.
À partir de là, d'un auteur à l'autre, on trouve l'affirmation que c'est au fond à la fois la fille de l'ignorance, la fille de la peur, et qu'elle exprime l'anxiété devant le danger.
Je crois profondément que la superstition est un moyen de faire face justement à notre ignorance. Voilà. Notre ignorance qui nous rend tout à fait enfants dans un monde qui nous dépasse. Et plutôt que d'accepter cette faiblesse, plutôt que de vivre une tension, on recourt à un certain nombre de stratagèmes qu'on va glisser sous le nom de superstition.
Avec toujours cette condescendance, vous nous avez montré tout à l'heure qu'elle n'était pas justifiée, des classes dominantes sur les autres. Gustave Le Bon, qui au XIXe siècle s'est beaucoup intéressé à la psychologie des foules, écrivait que l'âme populaire avait pour principale caractéristique d'être entièrement dominée par des éléments affectifs et mystiques.
Et voilà, ça c'est la croyance qui va déjà être en germe avec Thomas d'Aquin, mais qui va vraiment se répandre au XVIIIe et XIXe siècle, c'est la superstition, c'est pas pour nous les élites, c'est pour les pauvres gens. Et puis finalement, c'est un haïtien, c'est un philosophe haïtien, à qui on dit « mais vous les Haïtiens, vous êtes superstitieux », qui répond en français « nous superstitieux ? Mais on a plus de médecins par rapport au nombre d'habitants qu'en France. Et vous croyez que les Bretons qui croient à l'Ankou n'est pas superstitieux ? Qui croient à l'Ankou, la figure de la mort, voilà. Et l'Haïtien a tout à fait raison. C'est une attitude, voilà, je traite de superstition, ça me quelqu'un, un comportement et tout, et ça me donne un statut supérieur. Finalement, je serai toujours le superstitieux de quelqu'un.
Les auteurs insistent sur la superstition comme fille de l'ignorance, mais aussi de la peur. Spinoza s'est beaucoup intéressé à la superstition. Il écrivait « Si les hommes étaient capables de gouverner toute la conduite de leur vie pour un dessein réglé, ou si la fortune leur était toujours favorable, leur âme serait libre de toute superstition. Mais comme ils sont souvent placés dans un si fâcheux état qu'ils ne peuvent prendre aucune résolution raisonnable, toujours l'affrontement superstition-raison, comme ils flottent presque toujours misérablement entre l'espérance et la crainte, leur esprit s'ouvre alors à la plus extrême crédulité. La cause d'où naît la superstition, celle qui la conserve et l'entretient, c'est donc la crainte. Ce n'est que durant la crainte que les hommes sont en proie à la superstition. De cette cause de la superstition, il s'ensuit donc clairement que tous les hommes sont sujets à la superstition par nature, Spinoza.
Mais Spinoza a totalement raison. Finalement, toutes les enquêtes nous montrent que finalement, ce n'est ni le niveau d'intelligence, ni le niveau de formation, comme on l'a déjà dit, qui explique la superstition. Par contre, c'est la peur. Et là, la peur, elle n'est pas sociale, elle n'est pas culturelle, elle touche tout le monde. Il suffit de voir les moments de crise, que ce soit récemment chez nous la Covid, que ce soit les guerres, le nombre de superstitions augmente. Et dans notre monde qui est profondément anxiogène, bah, la superstition a de très beaux jours devant elle.
Voyons justement comment la superstition naît de prenez la guerre.
La guerre est le moment où les cadres habituels de la vie disparaissent. Je suis suspendu parce que mes référents, qui sont mes référents d'État, mes référents de vie quotidienne, sont complètement détruits, annihilés. La guerre, c'est aussi l'immédiat. L'immédiat parce que je ne sais pas ce qui va m'arriver demain. Est-ce que je meurs? Est-ce que ma maison, etc. Donc, comment vivre avec ça? Soit avec un trauma majeur, soit en ayant un certain nombre de superstitions, c'est-à-dire de pratiques qui vont me rassurer. Par exemple, vous avez à l'heure actuelle tous les bombardements dans les pays aussi divers que la bande de Gaza ou l'Ukraine. Eh bien, si vous devez rentrer dans un abri, rentrez dans l'abri en mettant le pied droit en avant, pas le pied gauche, et ne rentrez jamais après quelqu'un dont la maison a été détruite par un bombardement. Et si vous respectez ces deux règles, aucune bombe ne tombera sur votre abri.
Vous avez concentré votre attention largement, Philippe Martin, sur le cas de la guerre de 70-71 et sur, naturellement, la Grande Guerre de 14-18.
J'ai concentré mon attention sur ces deux guerres parce que, à ce moment-là, dans la société, on a le début de ce qui viendra, la psychologie, la sociologie et tout. Et donc, dans ces deux guerres-là, on a un certain nombre de grandes enquêtes qui vont se faire jour. On a, par exemple, Dosa, qui va, en France, comme ça, faire un répertoire de toutes les superstitions.
Le linguiste, bon, le grand linguiste.
Le grand linguiste Dosa va faire un ouvrage sur les superstitions dans la guerre, mais le grand poète Apollinaire aussi va s'y intéresser. C'est-à-dire que ces conflits sont les premiers dans lesquels des intellectuels se rendent compte de l'importance de la superstition et prennent du recul, font des répertoires, vont même faire des questionnaires. On a en Suisse et en Allemagne des questionnaires pour s'envoyer à toutes les troupes pour savoir ce que les gens font. On a à Londres une exposition des talismans et gris-gris des tranchées en 1916.
C'est d'ailleurs assez lié à toutes ces fausses nouvelles dont un répertoire est également établi par beaucoup.
Tous les gens qui annoncent la fin de la guerre, qui annoncent que Madame un tel, venue de telle contrée mystérieuse, prédit la victoire de telle ou telle armée. La guerre a été tellement intense. Sur les tranchées, on a développé comme ça une foule de croyances. Alors, ces croyances, elles varient d'un pays à l'autre, mais chaque soldat a son propre gris-gris. En France, c'était des petites figurines comme ça, Rintintin, qui étaient des petits personnages inventés par Poulbeau, que les gens portaient sur eux.
Poulbeau, c'est le fameux dessinateur de Montmartre, qui a donné son nom d'ailleurs au gamin de Montmartre.
Exactement. Ben, il avait dessiné des petits personnages avant la guerre, et ces petits personnages, eh bien, il fallait les recevoir, les donner, pas jamais les acheter. Hein. Un gris-gris ne s'achète pas. Hein. Et le soldat en était protégé. Puis pour d'autres, Léon Blois, qui est un personnage qui vous est cher, hein, Léon Blois distribuait des petits morceaux de reliques à ses proches de manière à ce qu'ils soient protégés des bombardements.
Une autre donnée que vous mettez bien en lumière, Philippe Martin, quand vous vous préoccupez de la superstition à travers les âges, c'est la manière dont elle est née, en tout cas la formule, la formulation, la réflexion est née en Occident et s'est étendue progressivement à l'ensemble du monde.
Ah oui, l'Occident a exporté la notion. Il a exporté la notion parce que l'Occident rencontre des populations et il ne sait pas les définir. Voilà. Alors un musulman, un juif, l'occidental chrétien, il est capable de le comprendre. Mais quelqu'un qu'il rencontre en Afrique ou quelqu'un qu'il rencontre en Amérique, qu'est-ce que c'est? Et il ne sait pas trop. Alors il a plusieurs options. La première option, ça serait de le considérer comme son égal, de dire c'est de la religion. On ne le fait pas. La deuxième option, c'est de l'animaliser, de dire mais ces gens ne sont pas des humains, etc. Ils sont voués au diable. Il y en a certains qui le font. Puis il y a une troisième attitude, c'est l'attitude de dire ce sont des superstitieux. Dire qu'une population est superstitieuse, ça ne veut pas l'enlever de l'humanité.
Les jésuites, par exemple, en Chine, sont relativement respectueux d'un commerce avec le sacré que ces populations...
peuvent avoir. Exactement. Les jésuites vont être extrêmement ouverts en disant c'est pas le diable qui s'exprime par eux, c'est de la superstition. Et la superstition peut en sortir, on peut améliorer les gens pourront revenir à la vérité.
Alors qu'il en va tout autrement, par exemple, en Amérique du Nord ou en Afrique noire.
Là, en fonction des gens, en fonction des populations, en effet, on va voir une gradation des Européens. Alors, j'allais dire, si on fait un espèce de podium de la manière dont les Européens jugent le monde, alors l'Asie, c'est bien, c'est un tout petit peu superstitieux, mais c'est vraiment pas loin de la religion. L'Amérique du Nord, ils sont superstitieux. Et l'Afrique, alors là, ils sont carrément diaboliques. Ouais, on va avoir une espèce de classement des Occidentaux, classement qui, dans leur esprit, comme ça, fait que l'humanité n'est pas égale.
Alors que dans le même temps, en Occident, on développe un folklore qui exprime tout à fait cette superstition que vous évoquez. Prenons un seul exemple, c'est Don Quichotte. Don Quichotte qui est vraiment sans doute une des meilleures figurations de la puissance de la superstition en son temps, comme en d'autres, puisque Cervantes lui fait dire à Sancho Panza « Je dois t'avertir que tous les temps ne se ressemblent pas et qu'il faut surtout repousser toute idée de superstition. Je te fais sentir c'est ridicule, mon bon ami, parce que je te crois une certaine tendance à la superstition. » Sur quoi cette profession rationaliste est immédiatement démentie par les faits, puisque Don Quichotte croit aux fantômes, pense que les livres peuvent devenir la réalité, se persuade de la véracité des contes les plus fous, écoute les charlatans et se fait berner par eux.
C'est tout à fait l'ambiguïté de cette Europe qui voyage. Et puis, l'Europe voyageant, eh bien, un certain nombre de populations vont avoir le désir de se moderniser. Et dans leur esprit, se moderniser, ça veut dire être comme les Occidentaux. Et un des éléments qui fait l'Occident, pour eux, c'est que l'Occident, il met des barrières entre les choses. Et donc vont apparaître, à la fin du 19e siècle, des équivalents de superstitions dans une foule de langues, en chinois, en japonais, etc. On va avoir, à ce moment-là, une disqualification de ce qui était considéré comme des religions traditionnelles qui vont être rangées au rythme de superstition. L'Occident a réussi une superbe opération de qualification des choses.
C'est une forme d'influence sur laquelle on n'a pas toujours le goût de braquer l'attention.
Ah non, en effet, on n'a pas le goût de faire ça, parce que ça veut dire que pendant très longtemps, les cultures traditionnelles, au nom de la superstition, ont été disqualifiées. Et vous avez des entreprises de requalification aujourd'hui, au moment où, à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle, les valeurs de l'Occident sont remises en cause, eh ben, on a un regret d'avoir utilisé les expressions de superstition et une requalification, c'est tout à fait caractéristique en Chine, où jadis, il y avait au XIXe siècle énormément d'aveugles et tout qui disaient la bonne aventure. À partir du moment où la Chine veut se moderniser, fin du XIXe et puis début du XXe siècle, tout ça va être interdit. Et puis, à partir du moment où le président actuel veut siniser la Chine, eh bien, on retrouve des grands foires, des grands marchés comme ça, dans lesquels on retrouve un certain nombre de gens qui lisent l'avenir. Mais ce qui était superstition dans les années 30, 50 avec Mao, aujourd'hui devient des religions traditionnelles.
Toujours l'ambivalence.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Je voudrais que nous prenions en compte, Philippe Martin, un certain nombre d'autres manières de vivre la superstition, en Occident et ailleurs. Je pense par exemple à cette notion de mauvais œil. Au Moyen-Âge, sur laquelle un beau livre de Béatrice de Laurenti vient de paraître, « Mauvais œil, une histoire médiévale ». Le mauvais œil, on le retrouve jusqu'aujourd'hui. Écoutez donc cette archive qui concerne la Corse. Le mauvais œil, c'est un extrait d'un reportage télévisé du 16 avril 1970 d'André Achondo.
Tout le secret de la sorcellerie corse, nous l'avons découvert à Tavera. Le mauvais œil, c'est peut-être une version très originale de l'œil de Caïn.
Le mauvais œil, vous savez, c'est lorsque il y a des gens qui viennent et qui voient un bébé, qui disent comme il est beau ce bébé, sans dire Dieu le bénisse. Et les gens disent, vante le bébé, qu'il est intelligent, qu'il est beau. Alors le bébé, il attrape le mauvais œil. Et après, il devient grognon, il pleure, et on voit qu'il est fatigué, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors hier soir, justement, ça s'est produit, ça. Le bébé pleurait, j'ai dit, tiens, je vais lui faire l'œil, s'il a le mauvais œil. Pour enlever le mauvais œil, je prends une assiette avec de l'eau. Je mets de l'eau dans l'assiette, oui. J'allume la veilleuse. Ah, il faut la veilleuse, sinon on ne peut pas faire l'œil. Hein. Là. Je récite une prière. Et voilà, je verse des gouttes dans l'eau. Comme le bébé a le mauvais œil, les gouttes s'élargissent de tous les côtés, oui. On voit que le bébé avait l'œil. Hein. Ah, ben, on dirait que ça va un petit peu mieux. Hein. Il y en a toujours. Hein. Voilà, alors je change l'eau parce qu'il faut que je le fasse 3 fois. Maintenant, c'est la troisième fois que je fais l'œil. Oui, on voit que l'œil, il n'y en a plus, les gouttes tombent ramassées, ça ne s'élargit plus. On voit que l'œil, le bébé, n'a plus d'œil, n'a plus le mauvais œil. Eh oui, il y a même d'autres œils là, même par exemple pour, vous savez, des fois une bête, elle a les douleurs, même pour les douleurs des animaux. Alors, on récite notre prière avec un morceau de bois, on fait ça sur le ventre de la bête. Alors, ah, les gens du village, c'est-à-dire que maintenant, il y en a plusieurs qui viennent des fois pour un bébé, même pour des bêtes, mais c'est une chose qui va disparaître parce que des vieilles, il n'y en a plus et les jeunes, ils n'y croient presque plus.
Ça va disparaître, ce n'est pas évident, Philippe Martin.
Oh non, parce que si cette dame raconte ça en 1970, j'ai des témoignages du XVIIe siècle qui décrivent exactement la même chose et aujourd'hui ça se fait encore. Mais ces témoignages montrent bien comment fonctionne la superstition. Bon, il y a un enfant, on lui lave l'œil. Enfin, ça n'a rien de superstitieux, c'est hygiénique. Qu'est-ce qui fait que c'est superstitieux? Elle le fait 3 fois. Souvenir de la Trinité. Autrement dit, il y a un appel quasiment aux religieux. L'appel aux religieux est renforcé par une parole qui est une parole efficace. Je récite des prières. Et on voit comment un geste tout simple, qui est de laver les yeux d'un gamin, devient un acte superstitieux. Pourquoi elle rajoute tout ça, cette dame? Ben, tout simplement pour être persuadée qu'en lavant les yeux, le mal va disparaître. Et on sait tous que laver les yeux d'un enfant, ben, c'est pas facile, le gamin il braille, on n'y arrive jamais, il reste toujours un peu quelque chose et tout. Donc là, eh ben, Dieu vient à son secours.
Trois fois, cela conduit à évoquer l'importance des chiffres dans la superstition. On ne peut pas dîner à 13. Les chiffres dans la superstition, pas seulement le 13.
Ah ben oui, les chiffres, c'est très très important. Ça permet de recontrôler les choses en pensant que les chiffres, là aussi, sont extrêmement culturels. Donc chez nous, chez nous en Europe, ça va être le fait d'avoir le 13. Mais en Asie, on va jouer sur le 8 ou le 4.
En Occident, cela se rattache notamment, évidemment, à la Bible, puisque c'est la scène.
En Occident, l'idée du 13, on la rattache, comme vous le dites très bien, à la scène. Mais en réalité, il faut remonter plus loin. C'est-à-dire que déjà, dans l'Antiquité païenne, le 13 était symbole maléfique.
Le 12 était bon, au contraire, dans l'Antiquité.
Et voilà, le 12 est bon, et comme on le disait il y a une demi-heure, trop. La superstition, c'est trop. Donc, 12, c'est parfait, on en rajoute un, ben, ça devient diabolique. Quand les chrétiens arrivent, ben, les chrétiens vont christianiser ce chiffre en disant que c'était le nombre des apôtres. Mais le 13, du coup, est un chiffre spécial. Mais est-ce que c'est un chiffre qui porte chance ou un chiffre qui porte malchance?
Je vous rappelle que l'avion qui est tombé dans les Andes au début des années 70 portait le numéro 13. C'était la définition du vol. Alors que la loterie nationale, aujourd'hui, elle s'appelle la Française des Jeux, vend beaucoup de billets le vendredi 13.
Aujourd'hui, la Française des Jeux double à peu près ce qui se passe un vendredi 13 par rapport aux autres jours.
Donc je rappelle par rapport à la chanson que nous avons donnée au début de cette émission qu'elle a porté le trèfle à 4 feuilles comme le symbole de sa présence et de son poids dans la société.
Mais s'il y en a certains qui sont joueurs, qui vont au casino, qu'ils regardent les sites internet de certains casinos qui vous disent « Mais pour gagner, il faut obligatoirement avoir vos gris-gris, vos petites superstitions. » Et il y a des guides de superstitions. Si vous allez sur une machine à sous, pour gagner sur la machine à sous, il faut un alignement de 7 souvent. Pourquoi ? Parce que dans le monde entier, le 7 est le chiffre qui semble le plus bénéfique.
Au casino, il y a toutes sortes de pratiques superstitieuses. Il faut caresser les dés. Enfin, je ne suis pas très compétent, mais vous l'êtes peut-être davantage.
Ah, pas du tout, non. Je suis beaucoup trop prudent, moi. Oui, oui, il faut souffler sur les dés, ne pas s'asseoir à côté de telle personne, poser ses plaques dans tel ordre, ne pas jouer à certaines heures, etc., etc. Tout est superstition.
Ça conduit aussi à la grande importance au cœur de ce sujet que nous traitons ce matin, la superstition de l'astrologie.
Bah, croire que nous ne dépendons pas de nous-mêmes, mais que quelque part, l'univers entier nous est relié. L'astrologie, alors pour certains, ça va être une science. Pour d'autres, eh bien, comme Augustin dont on parlait il y a un moment, c'est quelque chose de diabolique. Et puis pour d'autres, bah, c'est dans l'entre-deux, quoi. C'est de la superstition.
Je vois que 2/3 des magazines aujourd'hui ont une rubrique astrologique.
Ça rassure. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ? Chacun y mettra sa croyance, mais en effet, l'astrologie, on le disait, ça permet de faire face à la peur. Voilà, c'est les premiers sites que les gens voient quand ils allument leurs ordinateurs le matin. Ça rassure, parce que soit ça va me dire quelque chose de positif, donc youpi, tout va bien se passer, soit ça me dit quelque chose de négatif, bon bah d'accord, c'est prévu, je vais attendre demain, les choses iront mieux.
C'est toujours l'idée que on établit un lien entre deux événements successifs alors qu'il s'agirait en fait de coïncidences.
La superstition crée des chaînes causales qui permettent d'expliquer les choses et de faire face aux tensions. Un des meilleurs exemples, c'est celui développé par Freud. Il l'appelle l'Omura. L'Omura est un monsieur qui est envoyé dans un hôpital. Et en entrant dans l'hôpital, il dit « Moi, j'aimerais bien telle chambre parce qu'elle a un joli balcon. » Et on lui dit « Ah ben non, la chambre est occupée, vous ne pouvez pas y aller. » Oh, que soit maudit le malade qui y est. Trois semaines après, le malade meurt. Et inévitablement, le monsieur dit « Eh ben, c'est moi qui l'ai tué puisque j'ai lancé la malédiction. »
D'ailleurs, Freud dit « Je suis superstitieux à un moment donné. »
Freud, oui, oui. Freud reconnaît tout à fait l'efficacité de la superstition.
Sans auto-ironie, il dit « Je suis superstitieux ».
Tout à fait, tout à fait. Et il a une histoire d'un rêve dans lequel il est appelé chez un malade et sa calèche n'arrive pas à l'heure et le malade est mort. Et il va avoir toute une analyse pour dire « Mais finalement, ce rêve, c'est de la superstition parce que ça me permet de faire face à l'angoisse du fait que je ne peux pas sauver tout le monde ».
Il y a un autre moment, évidemment, où la superstition fleurit. C'est le temps qui nous concerne, nous aussi. Le temps de la peste, le temps des maladies qui circulent sur la planète.
Oui, la peste qui ravage l'Europe à partir du XIVe siècle, mais une peste beaucoup plus récente, c'est la Covid. Vous savez qu'il y a eu un produit en Europe, on a manqué pendant tout le confinement. Impossible de trouver. Ah, c'était pas la farine, c'était pas le papier toilette. La main de la figue. La main de la figue, c'est un talisman qui remonte aux Romains. Ça représente une petite main dont le pouce est coincé entre les doigts. Ça s'appelle la main de la figue, mais pourquoi ? Ça n'a aucun rapport avec avec le fruit. Ça s'appelle la main de la figue. Je ne peux pas vous dire l'étymologie de ça. Eh bien, ce gris-gris, impossible de l'avoir trouvé pendant tout le confinement. Rupture de stock.
Et vous n'avez pas une manière superstitieuse de vous protéger contre le fait que je vous ai découvert ignorant sur ce point ?
Non, mais je peux vous donner en échange une recette pour lutter contre la Covid. Ça vous coûte 25 centimes.
Partageons-la avec nos auditeurs.
Bon, alors on dit ça avec un grand sourire, bien sûr. C'est pas une recette de médecine et on est au second degré. Hein. Tout le monde
voyez,
se soigne et tout.
Vous
hein.
voyez, comme vous-même, vous êtes prudent par rapport à l'idée qu'on pourrait vous croire superstitieux.
Alors, vous prenez du Bissap, vous prenez du dentifrice Colgate. Vous prenez du lait carnation, c'est du lait pour gamins que vous trouvez en Amérique centrale, etc. Vous prenez des punaises de lit, vous prenez 21 gouttes de sang, vous mettez tout ça dans un petit bol, vous écrasez, vous le prenez 3 fois par jour pendant 9 jours. Et ça, ça vous guérit de la Covid, ça vous guérit du sida et tout. En tout cas, c'est ce que disait pendant le confinement le prophète autoproclamé haïtien Macky Sall d'Orillas, qui a eu des centaines de milliers de gens qui ont suivi ces petits conseils, etc. Et il était tellement dangereux que, bah, vous savez, le triste sort d'Haïti aujourd'hui, malgré tout le désordre, il y a eu une demande d'arrestation de ce prophète autoproclamé, tellement il était dangereux et tout, par ses croyances, et puis toutes ses petites recettes et tout.
Vous nous dites en somme que les nouvelles technologies sont un puissant renfort pour la diffusion de la superstition planétaire.
Bien évidemment. Pendant la période de la Covid, les sites internet ont diffusé un nombre ahurissant de croyances liées tout simplement au fait que la maladie était prévue, il y a telle recette qui est prévue, etc. C'est pas un fait géographique, hein, puisqu'on trouve des gens en Afrique, en Haïti, en Europe, etc. C'est pas un fait de croyance non plus, puisqu'on trouve des musulmans, des juifs, des chrétiens, mais le fait que face au danger, face à la peur de ce que personne ne comprenait, les superstitions sont revenues en très très grande force.
Il y a des métiers qui sont plus superstitieux peut-être. Il faut parler du monde de la terre, de la paysannerie, où la superstition a longtemps fleuri, probablement fleurit toujours. Et quand je vois, par exemple, que la peau de lapin, vous allez nous dire pourquoi, est extrêmement féconde quand on la porte, on est conduit directement dans cet univers. Expliquez-nous d'ailleurs pourquoi une peau de lapin.
Alors, la peau de lapin ne porte pas toujours bonheur, hein. En tout cas, n'allez pas sur un bateau avec une peau de lapin, parce que vous aurez beaucoup, beaucoup de problèmes. Vous ne devez même pas dire le nom de l'animal. Sur les bateaux, on ne doit pas dire le mot lapin. Hein, on parle de l'animal à grandes oreilles. Alors, pourquoi ? On va vous dire, oui, mais c'est parce que les lapins à bord des bateaux grignotaient les coques, et donc ça faisait des trous et les bateaux coulaient. Non, mais attendez, vous avez déjà vu un bateau dans lequel on mettrait des lapins se baladant, alors qu'on ne mange pas de lapin, quasiment pas de lapin, au Moyen-Âge et au début de l'époque moderne. Et deuxièmement, vous imaginez un lapin attaquer des poutres de chêne et réussir à creuser un trou pour couler un bateau? L'explication ne tient pas. Mais l'explication légitime ma croyance. Et ce qui est important pour l'historien, c'est pas de savoir si l'explication, elle est vraie ou fausse. Elle est de comprendre que l'individu, quelque part, reste rationnel, se rend compte que sa croyance relève de la superstition, mais qu'il atténue sa mauvaise conscience en ayant une explication qui est une explication logique.
Toujours cette dialectique entre raison et superstition qui fait, me semble-t-il, une grande partie de l'intérêt du sujet que nous traitons ce matin.
Tout à fait.
Et puis, il y a un domaine où la superstition fleurit, jusqu'à aujourd'hui, c'est le sport, vous m'avez deviné. Alors écoutez donc ce reportage télévisé de Ramatou Keïta sur la superstition des joueurs du PSG. C'est un extrait de l'émission L'Assiette Anglaise de Bernard Rapp sur Antenne 2. Le 8 avril 1989, c'est déjà ancien, mais je pense que c'est toujours vivant.
Ces vedettes du PSG ont tous un truc en plus, le short troué ou une couleur fétiche. Rien n'est laissé au hasard, y compris l'arrière qui s'occupe de déplacer le filet. Ces footballeurs sont tous superstitieux.
J'ai toujours un 13 sur moi, j'ai un numéro 13. Je suis né un 13, j'ai été baptisé un 13, enfin c'est pas de ma faute, c'est mes parents ça. Et puis bah, ce numéro il me suit, puis j'ai le mien.
Chacun a sa petite recette pour être le meilleur, mais on préfère s'attarder sur celle des autres.
Je sais que Joël Batz et Franck Tenazi par exemple font chambre ensemble, et bon, on sait pas trop ce qui se passe dans la chambre.
Et on tient à être ensemble dans la chambre parce que depuis un fameux match à Toulon où on avait gagné 1-0 à l'extérieur, depuis ce jour-là, on veut être dans la chambre à 1h10 ou 1h.
On caresse aussi la pelouse avant un match, on y rentre avec le pied droit et quand on n'est pas superstitieux, on a quand même ses habitudes.
Je ne suis pas du tout superstitieux, au-delà de, comme monsieur Omar Séné par exemple peut l'être, mais disons que le seul petit truc que j'ai, c'est que je fais un signe de croix avant d'entrer sur le terrain pour me préserver éventuellement d'une sale blessure qui pourrait me contraindre à rester à la maison, quoi.
Bon, moi, ma superstition, c'est déjà avant les matchs, il faut que je commence à bander mon pied droit. Et après, le pied gauche. Et après, c'est les maillots.
Le plus pointilleux de tous, c'est le gardien de but, Batz. La preuve, on ne saura jamais rien sur son gris-gris.
En dessous du maillot de match, j'avais un maillot fétiche. Et à partir du moment où j'ai dévoilé ce secret, j'ai plus eu la chance avec moi. Alors depuis, je dis plus mes secrets pour pas que ça me porte malheur.
Aujourd'hui, en tout cas, il n'y a pas eu de malheur. Seulement, deux oiseaux noirs ont survolé le terrain par trois fois avant de disparaître. Bizarre.
Le sport, donc, lieu où fleurit la superstition, spécialement, Philippe Martin ?
Ah, particulièrement, parce que, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, la superstition étant un réflexe pour faire face à la peur et à l'incertitude, bah, qu'est-ce qui vous permet de gagner un dixième de seconde? Qu'est-ce qui fait que votre ballon passera à 10 cm dans la cage du but, etc., etc. Donc du coup, la superstition est là pour faire face à cette peur. Et dans certains nombres de compétitions, c'est extrêmement important. Le règlement de la CAN, c'est la grande coupe des nations en Afrique, un des points du règlement précise le nombre de gris-gris que vous pouvez avoir, précise la non-utilisation de chamans, etc. Autrement dit, c'est dans le règlement. Mais c'est pas propre à l'Afrique. Le sélectionneur Luis Fernandez, en France, se promenait avec du sel dans ses poches pour faire le tour du terrain et mettre du sel.
Le sel est très important dans l'histoire de la superstition.
Parce que le sel est indispensable à la vie. Comme le sel est indispensable à la vie, eh bien l'idée, c'est d'avoir un surplus de sel, toujours le trop. C'est un moyen de se concilier les dieux.
Je suis sensible au fait que dans le monde de l'exploration spatiale, l'envoi des fusées notamment, on apparaît comme très superstitieux. C'est intéressant parce que c'est la rencontre entre ce que la science peut prétendre imposer comme extrême spécificité, détail très très précis, et puis l'inattendu qui explose.
Et donc même des gens qui sont avec des grandes études, avec des choses extrêmement scientifiques, même eux ont peur. Donc,
ils le racontent, certains l'ont raconté avec franchise et un sourire peut-être, mais un demi-sourire.
Demi-sourire, parce que voilà, la superstition est toujours là.
Alors je voudrais que, pour la dernière partie de cette émission, Philippe Martin, consacrée à la superstition, nous revenions sur la question des relations avec la société et avec la religion. En particulier, cette guerre qui s'est, de longue main, vous évoquiez Saint-Augustin, installé entre superstition et religion, avec toujours une partie assez floue entre l'une et l'autre. Les religions s'efforçant de récupérer à leur profit ce qui peut subsister de croyances, tout en se méfiant de ce qu'elles incarnent comme crédulité, qui peut éventuellement s'opposer à la foi telle qu'on l'enseigne.
La religion, enfin nos religions abrahamiques, posent le principe du licite et de l'illicite. Mais est-ce que la frontière entre le licite et l'illicite est-elle une ligne ou est-elle un espace flou ?
Et pour illustrer cela, je vous propose un extrait du traité des superstitions selon l'Écriture sainte. C'est l'œuvre d'un auteur qui s'appelait Jean-Baptiste Thiers, un livre de 1679, qui est lu ici par Jean-Marie Goulmaud. C'est un extrait des Lundis de l'Histoire de Roger Chartier sur France Culture, le 3 septembre 1984. Écoutez.
C'est par les superstitions que le démon rentre en possession des âmes d'où il avait été chassé par la vertu de la croix. C'est par les superstitions qu'il oblige les chrétiens de renoncer aux vœux solennels de leur baptême. C'est par les superstitions qu'il leur fait perdre l'espérance qu'ils doivent avoir en Dieu pour la leur faire mettre dans les vanités pleines de mensonges et qui les rendent les ennemis de Dieu. Enfin, c'est par les superstitions qu'il les fait tomber dans des péchés mortels et énormes, qui, après les avoir assujettis à sa cruelle tyrannie, les engage à une éternité de peine inconcevable. Il est donc important d'instruire les fidèles sur le sujet des superstitions et de leur faire connaître au vrai et sûrement quand une chose est superstitieuse et illicite, afin qu'ils se donnent de garde de la commettre. Alors voici les règles les plus sûres qu'on leur peut proposer pour cet effet. Règle 1. Une chose est superstitieuse et illicite lorsqu'elle est accompagnée de certaines circonstances que l'on sait n'avoir aucune vertu naturelle pour produire les effets que l'on en espère. Règle 2. Une chose est superstitieuse et illicite lorsque les effets que l'on en attend ne peuvent être raisonnablement attribués ni à Dieu ni à la nature. Règle 3. Une chose est superstitieuse lorsque les effets qu'elle produit ne peuvent pas être attribués à la nature et qu'elle n'a pas été instituée ni de Dieu ni immédiatement de l'Église pour les produire. Règle 4. Une chose est superstitieuse lorsqu'elle se fait en vertu d'un pacte tacite ou express avec les démons.
Voilà, Philippe Martin, un effort marqué, presque désespéré par moments, pour faire le départ entre religion et superstition.
Ouais, c'est très difficile de faire le lien entre les deux, ou du coup de distinguer les deux. Parce que dans nos religions, comme on a l'héritage d'Aristote, il faut faire une ligne entre le licite et l'illicite. Donc c'est facile, on est dans l'Église ou on est vendu au diable. Voilà. On est dans l'Église ou on est hérétique. Voilà, c'est simple.
Et le trébuchet est parfois difficile à définir entre...
Et voilà. Et donc, du coup, l'idée, c'est qu'au lieu d'avoir une ligne entre le licite et l'illicite, on a un espace flou. Et cet espace flou, c'est la superstition. Alors, plus on va s'éloigner de la foi correcte, plus on va vers l'hétérodoxie, le diable, le pacte avec le démon. Prenons un exemple. Vous récitez le Notre Père. Bon, ben, vous êtes dans l'Église. Vous récitez trois fois le Notre Père. Vous êtes en train d'aller vers la zone floue. Vous récitez trois fois le Notre Père pour retrouver les clés que vous avez perdues. Alors là, vous êtes dans l'espace sous de la superstition.
Mais ça marche ou pas?
Moi, jamais. Il faut toujours que je sonne à la porte de la maison. Vous récitez trois fois le Notre Père en demandant à retrouver les clés de votre maison, mais en créant sur le sol un pentacle et en appelant au diable. Ça y est, vous êtes passé dans l'illicite complet.
Un pentacle ?
Un dessin qui est un dessin circulaire avec des pointes de diamants autour. C'est là-dedans que vous devez vous mettre pour être à l'abri du diable. Et voyez comment, finalement, avec la même prière, vous passez de la foi tout à fait raisonnable, tout à fait admise, au démoniaque. La superstition, c'est cet espace intermédiaire. Et un espace intermédiaire, par définition, ne cesse d'être redéfini, rediscuté. Et bien évidemment, la majorité des gens s'y trouvent.
Et on ne s'étonne pas qu'on retrouve l'accusation croisée dans les guerres de religion, chaque camp accusant l'autre d'être superstitieux. Dans le cas de Calvin, par exemple, c'est topique avec la dénonciation des reliques, qui peut, à ses yeux, aux yeux des réformateurs, apparaître comme un élément éminent de superstition. Il écrivait dans son traité des reliques, « Au lieu de chercher Jésus-Christ en sa parole, en ses sacrements et en ses grâces spirituelles, le monde, selon la coutume, s'est amusé à ses robes, chemises et drapeaux. » Autrement dit, la foi catholique, il y a par exemple le cas de ce clou qui était supposé avoir été sur la croix et qui permettrait, d'après certains rituels adoptés par les catholiques, de guérir le mal de dents.
Alors, pour le clou, oui, il suffit de ramener un clou, de le mettre contre la mâchoire de la personne. Il ne faut pas lui percer quand même la joue. Le mettre contre la mâchoire, prononcer une prière. Et finalement, le clou, par sa puissance divine, va aspirer le mal, va aspirer le poison. Mais attention, le clou, vous devez le planter dans une planche, dans un arbre. Vous ne le gardez pas, parce que comme il est chargé de venin, vous pourriez le transmettre à quelqu'un.
Toujours sous les auspices de Sainte Apolline, qui a été martyrisée à Alexandrie, je crois que c'est au IIIe siècle. On lui a cassé les dents.
On lui a cassé les dents, voilà.
Le bois est très présent dans le champ de la superstition.
Le bois est très présent parce que le bois est, comme la superstition, un élément qui est un élément ambigu. Ça semble inerte, comme une pierre, un morceau de bois. Mais on sait très bien que le bois, il vit. On sait très bien que le bois, il grandit, il se comporte différemment en fonction du climat et tout. Donc du coup, il n'est pas un objet comme un autre, puisqu'il n'est pas un objet comme un autre, il est dans cet intermédiaire, et tout ce qui est dans l'intermédiaire peut devenir superstition.
C'est pourquoi vous avez touché du bois en arrivant ici, tout intimidé par l'idée de faire cette émission, Philippe Martin ?
Exactement, et que j'ai posé trois petits morceaux de bois devant moi.
Les liens entre la criminalité et la superstition... Crime et superstition, c'est encore un chapitre.
C'est un chapitre parce que au XIXe siècle, la criminalistique commence à naître avec un Allemand qui est Hans Gross et puis un Russe qui est August Löwenstein. Alors là aussi, bon bah il y a les gens qui sont les gens probes, honnêtes, etc. Et puis il y a les criminels, les voleurs. Et puis il y a des gens qu'on ne comprend pas. Et ce qu'on ne comprend pas, c'est les infanticides. Ce qu'on ne comprend pas, c'est tout un tas de crimes abominables. Et comme on ne le comprend pas, eh bien, ils vont forger le concept de superstition criminelle. Et ces superstitions criminelles vont permettre d'expliquer ce que nous, aujourd'hui, on appellerait des tueurs en série, des psychopathes, etc. Et ils vont expliquer, ces criminalistiques, que finalement, les crimes les plus abominables, c'est parce que les gens cèdent aux superstitions. On tue un enfant. Alors, pourquoi tue-t-on un enfant ? C'est abominable. Mais eux, ils vont dire, les gens tuent leur enfant parce qu'ils sont persuadés que le diable a enlevé leur enfant et que ce qu'ils voient avec eux, ce n'est pas leur gamin, mais un gamin du diable.
Vous relevez plusieurs cas, d'ailleurs, impressionnants. À la fin du 19e siècle, il y a même une mère qui va rechercher son bébé dans le cercueil pour en couper les mains. Je ne décris pas, c'est horrible. Et avec l'idée que ça permettra de punir son amant ou son mari qui veut la quitter.
On a là aussi la superstition qui est un mot facile pour tous ces gens pour dire mais comment des humains peuvent faire des choses comme ça ? Donc c'est pas du criminel, j'allais dire classique, qui vole pour avoir de l'argent. C'est pas quelqu'un d'honnête, donc c'est dans l'entre-deux, hop, c'est des superstitions. Et puis c'est un moyen aussi de se garder de la peur. Parce que si des humains font ça, qu'est-ce qui me dit que moi-même, j'ai pas en moi des forces terribles ? Donc la superstition est un moyen... Là encore,
la crainte toujours, la crainte.
La crainte, toujours ça.
La crainte de souffrir et la crainte de ne pas comprendre ce qui risque de vous accabler à partir du monde extérieur.
Exactement.
Eh bien, c'est ainsi que s'achève notre conversation, Philippe Martin, notre émission consacrée à la superstition. Je ne sais pas si les comportements de nos auditrices et de nos auditeurs vont être modifiés par l'écoute de nos propos. Je suis passé tout à l'heure devant la... statue de Montaigne sur le square Samuel Paty, place Paul Painlevé, devant la Sorbonne. J'ai été frappé par le fait que son pied est entièrement luisant. C'est parce que depuis très très longtemps, des étudiants viennent frotter ce pied avant ou après leurs examens. Est-ce que ça marche ?
Moi, je n'ai pas fait mes études là, donc je ne peux pas vous le dire.
Eh bien, j'ai plaisir, Philippe Martin, à rappeler le titre de votre beau livre qui s'appelle... Superstition, histoire d'un mot, 15e, 21e siècle, publié cette année chez Fayard. J'ai signalé chemin faisant le livre également très utile de Béatrice Delorenti qui s'appelle Mauvais œil, une histoire médiévale, nous avons beaucoup parlé du mauvais œil, tout récemment publié par les éditions du Cerf. Autres ouvrages précieux de vos recherches, Philippe Martin, vous êtes spécialiste d'histoire des sensibilités, des religions. Vous avez publié une histoire de la messe aux éditions du CNRS, aux belles éditions du CNRS en 2016. Et puis aux éditions du Cerf également, un livre consacré aux religions face aux épidémies, de la peste à la Covid. Vous tournez toujours autour de cette question des maladies, des épidémies.
Je tourne toujours autour de la question de qu'est-ce qui fait que je suis humain ? Qu'est-ce qui fait qu'on peut passer d'un côté ou de l'autre ?
Vous pourrez, mes chers auditeurs, mes chères auditrices, trouver une bibliographie complète sur notre site, plus complète, avec les références, vous le savez, les documents que nous avons utilisés, les documents sonores, et vous pourrez également écouter, réécouter et podcaster cette émission.
Je suis superstitieux. Je suis superstitieux. J'évite le sel. J'ai mes portes de bonheur. Une croix, un grimoire.
Et tout en écoutant en arrière-plan la chanson Superstition, qui est une adaptation d'Eddie Mitchell de la célèbre chanson de Stevie Wonder de 1973, Superstition, je vous rappelle que vous venez d'entendre Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, réalisée par Vincent Abouchard, avec Loïc Duros à la prise de son, Célian Guillemard à la discothèque, et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Véronique Jolivet. Je remercierai aussi la documentation et la bibliothèque de Radio France qui me fournissent chaque semaine des éléments très précieux pour préparer ces rencontres.